Chapitre 2. Cependant, comme après tout il faut vivre, et comme les pauvres gens ne vivent pas sans manger, et comme ils ne mangent pas sans travailler, et comme il fait froid en hiver, ce qui oblige d'avoir des robes de laine, et chaud en été, ce qui oblige d'avoir des robes de coton, et comme les robes de laine ne coûtent fort cher, et comme on ne donne pas pour rien les robes de coton, je me remis à travailler comme à l'ordinaire, dès le lendemain du départ de Bernard. Ce ne fut pas sans une amère tristesse. Bien souvent, je baissais la tête sur mon ouvrage, et je m'arrêtais à rêver de l'absent, et à me rappeler les dernières paroles qu'il m'avait dites et les derniers regards qu'il m'avait jetés en partant avec le sac sur le dos. Mais le contremaître de l'atelier ne tardait pas à me réveiller, et je reprenais mon travail avec ardeur. Car il faut vous dire, madame, que je travaillais dans un atelier avec 30 ou 40 ouvrières. Chacune de nous avait son métier et gagnait à peu près 75 centimes. Pour une femme, et dans ce pays, c'est beaucoup, car les femmes, comme vous savez, sont toujours fort mal payées, et on ne leur confie guère que des ouvrages qui demandent de la patience. 15 sous par jour, pensez, madame, si nous avions de quoi mener les violons. Encore faut-il excepter les dimanches, où l'on ne travaille pas, les jours de marché, où l'on ne travaille guère, et les jours où l'ouvrage manque, ce qui arrive au moins 3 semaines par an. Et quand nous avons payé le propriétaire, le boulanger, le beurre, les légumes et les pauvres habits que nous avons sur le corps, jugez s'il nous reste grand-chose et si nous pouvons faire bombance. Et ce n'est rien encore quand on vit seul ou qu'on n'a pas des enfants à élever et des parents infirmes à soutenir. Mais s'il faut élever les enfants, et peut-on les laisser seuls avant l'âge de 12 ans et travailler en même temps? L'argent du ménage sort presque tout entier de la poche du mari. Alors pour moi, qui n'avais ni parents à soutenir, puisque mon père était encore droit et vigoureux, ni enfants à élever, je me trouvais encore l'une des plus riches et les plus favorisées de l'atelier. Quoique la besogne que nous faisions ne fût pas des plus propres, et que parmi la laine et la poussière, il y eut bien des occasions de se salir, je savais m'en garantir, et mon bonnet, toujours blanc et noué avec soin sous le menton, faisait l'envie de mes camarades. Rose d'amour fait la coquette, disait-on. Oh, Rose d'amour a mis des brides bleues à son bonnet. Rose d'amour veut plaire aux garçons. Et le contremaître de la fabrique commença à me parler d'un ton plus doux qu'à tous les autres, et à me faire des compliments sur mes beaux yeux, et à me dire qu'il m'aimait de tout son cœur, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'avoir de plus belles robes et de plus beaux fichus que pas une fille de l'atelier, et enfin à vouloir m'embrasser publiquement par forme de plaisanterie. Ah là, madame, je me fâchais. Je ne puis pas dire que ces premiers compliments m'eussent fait de la peine, car enfin, on est toujours bien aisé d'entendre dire qu'on est joli, surtout quand on n'a pas eu souvent l'occasion de l'entendre. Et franchement, excepté Bernard, les garçons ne m'avaient pas gâté jusque-là par leurs louanges. Mais quand je vis où le contremaître voulait en venir, je fus indigné de sa conduite, et lorsqu'il m'embrassa, je le repoussai fortement, ce qui l'obligea de s'asseoir brusquement sur un sac de laine pour se garantir de tomber en arrière et, comme on dit chez nous, les 4 fers en l'air. Et ce commencement qui aurait dû le décourager ne fit que l'exciter davantage. Oh, le contremaître, madame, était un gros homme de 40 ans, laid comme les 7 péchés capitaux, qui était marié et qui sentait l'eau de vie et qui était horriblement brutal. Très souvent, par pure plaisanterie, il nous donnait des coups de poing dans le dos ou des coups de pied ou des tapes sur l'épaule à assommer un bœuf. Ensuite, il riait de toutes ses forces. Et encore ne fallait-il pas se plaindre, car il était alors tout prêt à recommencer. Et si l'on se plaignait au fabricant, il ne faisait qu'en rire, disant que cela ne le regardait pas et que nous saurions toujours bien nous accommoder avec le contremaître et qu'il ne fallait pas tant faire les renchéries et toutes sortes de choses que je ne vous rapporterai pas tant elles sont difficiles à croire. Cependant, grâce au ciel, j'aurais encore assez bien supporté ces bourrades. Oh, mais pour ces caresses, madame, c'était à n'y pas tenir. Comme il savait par les autres filles de l'atelier l'histoire de mes amours avec Bernard, car le pauvre Bernard avait pris tous ses camarades pour confidents et ne leur avait rien caché, excepté ce que j'aurais voulu oublier moi-même. Il commença à me dire que Bernard ne reviendrait jamais, qu'il rencontrait à toutes les filles qu'il pourrait rencontrer, qu'il était parti pour l'Afrique et que dans ce pays-là, nos soldats ramassaient les moricaux nos boisseaux, qu'il n'y avait qu'à se baisser et prendre, que Bernard n'était certainement pas homme à faire autrement que les autres, que j'en serais pour mes frais de fidélité, qu'il était bien dommage qu'une fille aussi jolie et aussi aimable que moi fût perdue pour la société. Je le laissais parler tout son sou sans lui rien répondre, et je continuais tranquillement mon travail. Ses discours ne faisaient rien sur moi, car j'étais bien résolu à n'aimer jamais que Bernard et à l'attendre éternellement. Les autres filles de l'atelier, un peu jalouses d'abord de la préférence du contremaître, commencèrent, en voyant ma résistance, à se moquer de lui, et son caprice devint une sorte de fureur. « Mon pauvre Mathieu, disait-elle, tu perds ton temps. Rose d'amour ne pense qu'à son bel amoureux. Elle ne t'aimera jamais. »« Et pourquoi m'admettrait-elle pas, petit tison d'enfer, petit serpent en jupon? Tu m'as bien aimé, toi qui parles. »«
Moi ?»«
Oui, toi, et tu m'en as donné des marques l'année dernière. Oh, le menteur !» Voilà ce qui se disait dans l'atelier. Et beaucoup d'autres paroles plus libres que je n'oserais vous répéter ici. Hélas, madame, on nous élève si peu et si mal. Dès que nous sommes nés, il faut marcher, et dès que nous marchons, il faut aller à l'atelier. La moitié, que dis-je, les trois quarts d'entre nous n'ont jamais vu l'intérieur d'une école. Qu'en saurions-nous ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire si l'on ne nous l'enseigne pas? Ah, les demoiselles qui sont riches, qui sont bien vêtues, bien chaussées, bien couchées, conduites en classe dès le matin et ramenées le soir, qui apprennent à lire, à calculer, à prier Dieu, à faire de la musique. Ces demoiselles-là sont bien heureuses en comparaison de nous, qui naissons au hasard, vivons par miracle, et mourons si souvent sans secours. Le discours du contremaître, dont il ne se cachait guère, car ce sont choses trop communes dans les ateliers pour qu'on en fasse mystère, et le soin que je prenais de me taire et de me tenir toujours éloigné de lui, me firent d'abord une grande réputation de vertu, et l'on commença à me citer en exemple aux autres filles du quartier, ce qui ne laissa pas de les exciter un peu contre moi. Vers ce temps-là, c'est-à-dire à peu près 3 ou 4 mois après le départ de Bernard, un matin, je me sentis toute changée et je m'aperçus que j'étais grosse. Hélas, madame, c'était le juste châtiment de Dieu et la juste punition de n'avoir pas su me garder contre Bernard. À cette découverte, un froid glacial s'empara de tout mon corps et je me sentis prête à mourir. Pensez à cette horrible situation. J'étais grosse et mon amant se trouvait si éloigné de moi qu'il ne pouvait même me donner de ses nouvelles et que je ne savais s'il pourrait jamais revenir. Encore, s'il avait été là, il m'aurait soutenu, encouragé, épousé, aimé du moins. Mais non, tout se réunissait contre moi et je ne vis d'abord à mon malheur d'autre remède que la mort. Oui, madame, je vous le jure. Ma première pensée fut de me jeter dans la rivière, car de paraître devant mon père, qui m'aimait tant, qui ne pensait qu'à moi, qui aurait donné pour moi sa vie, je n'osais d'abord en soutenir l'idée. Ce qui rendait mon malheur plus affreux, c'est que je n'osais en parler à personne, car, vous le savez, madame, dans un pareil embarras, on n'est pas seulement malheureux, on est encore plus ridicule. J'entendais par avance les cris et les plaisanteries de mes camarades de l'atelier, de celles surtout dont la conduite n'avait pas été bonne, et à qui on me citait pour modèle. Je voyais l'odieuse figure de Mathieu, le contremaître, et je les entendais dire en riant: « Eh bien, rose d'amour, te voilà donc embarrassée. La voilà, cette rose d'amour, cette sainte Sainte-Nitouche, cette hypocrite qui faisait tant la vertueuse et qui ne se serait pas laissée baiser le bout des doigts par un garçon. La voilà qui va faire des layettes et occuper la sage-femme. Va-t-on sonner les cloches pour le baptême, et faudra-t-il faire un carillon exprès ?» Dans cette inquiétude horrible, je ne vis qu'une seule personne en qui je puisse avoir confiance. C'était la mère de Bernard. Elle seule pouvait excuser ma faute. Elle m'aimait, elle avait longtemps désiré notre mariage. L'enfant, après tout, était son petit-fils. Elle ne pouvait en douter, et si elle me condamnait, elle ne pourrait pas du moins condamner son petit-fils. D'ailleurs, il ne me restait pas d'autre moyen de salut. J'aurais mieux aimé 20 fois, oui, je vous l'ai dit, me jeter tête baissée dans la rivière que d'en parler moi-même à mon père. Le soir même, j'allais la trouver. Depuis quelque temps, elle avait quitté notre maison et rebâti la sienne avec beaucoup de peine et en empruntant quelque argent à gros intérêt. Elle était assise au coin du feu quand j'entrais et venait de manger sa soupe. « Entre, dit-elle, ma pauvre rose d'amour, entre, mon homme n'y est pas, et tu apportes toujours la joie partout où tu vas. Eh bien, as-tu des nouvelles de Bernard ?»« Non, lui dis-je en l'embrassant, ben, ni moi non plus. Ah, quel dommage de ne pas savoir lire et écrire comme un savant. Je écrirai, je forcerai bien d'écrire, ce paresseux, car enfin, il a été à l'école, lui, et il lit couramment dans tous les livres. Où est-il maintenant ? On m'a dit que son régiment avait quitté Strasbourg et qu'on l'envoyait en Afrique pour baptiser les Bédouins. Ah, les gueux, ils me le tueront. On dit aussi qu'il fait si chaud là-bas quand on y fait cuire la soupe au soleil, que les hommes y sont noirs comme des taupes, et qu'il y a des oranges aux arbres comme chez nous des prunes aux pruniers. Mais ces gens-là sont si menteurs, ceux qui reviennent de là-bas, et ils savent bien qu'on n'a pas à voir s'ils ont menti. » Pendant qu'elle parlait, je regardais le feu en cherchant un moyen de lui expliquer pourquoi j'étais venu. Mais au moment de commencer, je sentais mon gosier se sécher et mon cœur battre si fort que j'en entendais les battements. « Mère, lui dis-je en mettant mes bras autour de son cou, comme j'en avais l'habitude, car de tout temps elle m'avait montré beaucoup d'amitié. Mère, je voudrais te dire un secret, mais je n'ose. » Au mot de secret, ses yeux brillèrent comme 2 charbons allumés. « Parle, dit-elle, tu sais bien qu'on m'appelle bouche close dans la famille. » Bon, c'était justement tout le contraire, mais enfin, je n'avais pas d'autre ressource. « Eh bien, lui dis-je en faisant un violent effort, mère, vous aurez bientôt un petit-fils. »« Que dis-tu, malheureuse ?» Alors, je lui racontai tout ce qui s'était passé entre son fils et moi. Elle écouta sans m'interrompre ce triste récit qui ne fut pas bien long, comme vous pouvez croire, car l'émotion où j'étais me coupait à chaque instant la parole. Enfin, quand j'eus tout dit, elle se leva de nouveau et me cria: « Oh, malheureuse, mais qu'as-tu fait? Mais que va dire ton père ?»« Mon père n'en sait rien, et c'est vous que je veux prier de lui dire. » « Oh, malheureuse, malheureuse, t'avais bien besoin d'aller au bois avec Bernard. Elle n'aurait pas dû t'empêcher de te suivre ou le repousser bien loin. Oh, mon Dieu, qu'allons-nous devenir ? Bernard est en Afrique et ne reviendra jamais, et voilà ma pauvre rose d'amour qui est sa femme et qui ne sera jamais mariée. Oh, mon Dieu, comment vais-je faire pour l'annoncer à ton père ? Il est capable de te tuer, le pauvre homme, dans le premier moment. » Et c'est bien excusable, car on n'a jamais vu personne se conduire comme tu t'es conduite, ma pauvre Rose. Non, jamais, jamais, jamais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Après ce dernier élan de douleur, Elle convint pourtant avec moi qu'elle annoncerait cette nouvelle à mon père et que lui promettait d'adopter l'enfant. Le lendemain, à la même heure, j'étais assise toute tremblante à côté de mon père. J'attendais, je craignais horriblement l'arrivée de la mère de Bernard. Contre son usage, mon père, qui ne parlait guère, était ce soir-là d'une humeur toute joyeuse. Boutonnet, me dit-il, me dois 120 francs. Je veux te les donner, ma petite Rose, pour que tu te fasses réparer ta chambre et que tu y fasses mettre du papier blanc comme une princesse. Au bas, je veux planter une vignette et un petit berceau avec cette belle glycine que t'as vue dans le jardin du maire, qui est toute bleue et blanche et qui s'étend si vite et si loin. Je veux que ta chambre soit la plus jolie de tout le quartier, comme tu en es la plus jolie fille et moi le plus heureux père. Eh, ma foi, tiens, s'il faut que je t'avoue mes mauvais sentiments, je suis bien aise maintenant que Bernard soit parti pour l'armée et que votre mariage soit retardé. Il m'ennuyait, ce Bernard. Il était toujours ici, fourré dans la maison ou dans le jardin. Il te donnait le bras, il te parlait matin et soir, il te faisait la cour, il me laissait rien. Il avait tout récolté. À présent, du moins, il ne m'assassine plus de ses visites et je puis t'aimer en toute liberté. Ah, ma bonne Rose, ma chère Rose d'amour. Tu es aujourd'hui toute ma pensée, ma vie, tu es mon soleil et ma joie. Quand je travaille, c'est pour toi. Quand je chante, c'est parce que je t'ai vu. Et quand je suis triste, je t'écoute et ma tristesse s'en va. Ne me quitte pas, mon enfant, je suis vieux et quoique fort, je n'ai peut-être pas longtemps à vivre. Sois avec moi toujours, marié ou non marié, je te devrai mon dernier bonheur. Je ferai danser des enfants sur mes genoux, et comme leur mère, ils réjouiront ma vieillesse. Je leur dirai des contes bleus, je les ferai rire, je les amuserai, bah, je ne serai pas inutile. Je t'aime, mon enfant, parce que tu as toujours été bonne et douce, et que même enfant, je m'en souviens encore, tu étais sans malice. Depuis 17 ans que tu es né, tu ne m'as pas encore donné un chagrin, et j'ai pas une pensée qui ne soit pour t'épargner, une peine ou pour te faire un plaisir. En même temps, il me tenait étroitement serré sur sa poitrine et m'embrassait avec tendresse. Je ne savais que répondre. J'avais envie de pleurer en pensant à l'horrible nouvelle qu'il allait recevoir. J'aurais voulu retarder le moment fatal et empêcher la mère de Bernard de lui tout apprendre. Je cherchais même moyen de l'avertir, mais il était trop tard. Elle entra au même instant. Après les premiers compliments, va te coucher, dit-elle, ma pauvre Rose d'amour, je te trouve maintenant un peu pâle. Tu auras trop veillé, oh, les veilles sont pas bonnes pour la jeunesse, va te coucher. J'ai quelque chose à dire à ton père que tu ne dois pas entendre. Oh, mère Bernard, dit mon père, vous êtes bien discrète aujourd'hui. Sur quelle herbe avez-vous marché? Mais bon, c'est bon vieux, sans souci, je sais ce que je dis. Allez, il est temps que pour Rose d'aller se coucher. De fait, j'avais peine à me soutenir. C'est vrai, dit mon père en me regardant, te voilà toute pâle, allez, c'est la croissance sans doute. Il m'embrassa et je courus m'enfermer, me barricader dans ma chambre, le laissant seul avec la mère de Bernard. Dès que la porte fut refermée sur moi et que j'eus mis le verrou, je collai mon visage à la cloison et je cherchai à voir par la fente qui était entre deux planches. Car notre maison, que mon père avait bâtie pièce à pièce, prenant là les pierres, ici le mortier, plus loin la brique, n'était pas, comme vous pensez bien, aussi solide que ces belles maisons en pierre de taille qu'on bâtit pour les bourgeois qui ont pignon sur rue, chevaux à l'écurie, vin dans la cave, gibier et viande de boucherie dans le garde-manger, et des vêtements à n'en savoir que faire. Tout se faisait à bon marché chez nous. Notre plancher était en cailloux tiré du fond de l'eau, et nos meubles auraient pu demeurer 50 ans exposés dans la rue, nuit et jour, sans tenter personne. Mais malgré toute mon attention, je n'entendis rien. La mère de Bernard parlait à voix basse, et mon père, la tête dans ses mains et tourné vers le feu, demeurait immobile comme un rocher. Excepté un cri étouffé qu'il fit au commencement, vous auriez dit une de ces statues qu'on voit à l'église, dans les niches des saints. Quand elle eut fini de parler, il ne répondit pas un mot. J'attendais, avec toute l'inquiétude que vous pouvez penser, quel serait son premier mouvement. La mère de Bernard, au bout d'un moment, recommença à parler, à l'interroger, mais il ne répondit encore rien. Ce silence m'inquiétait plus que ne l'aurait fait la plus violente colère. « Eh bien, demanda-t-elle une troisième fois, que voulez-vous faire ?»« Oh, ma fille, ma pauvre fille !» Ce fut tout ce qu'il put dire. Il se leva, et sans dire ni bonjour ni bonsoir à la mère de Bernard, il sortit, alla s'asseoir sur le rocher où nous nous étions assis si longtemps ensemble. J'eus peur un moment qu'il ne voulût se jeter de là, dans le précipice et s'y briser la tête. J'ouvris la porte sur le champ et je courus sur ses pas. Il se retourna. « Que veux-tu ?» Je me jetai à genoux devant lui en joignant les mains. « Père, pardonne-moi. »« Rentre, » dit-il d'une voix qui me parut toute changée. « Rentre !» Je n'osais lui désobéir et je retournai dans ma chambre. Le lendemain, en ouvrant la fenêtre au point du jour, je ne m'étais pas couché. Je le vis encore sur son rocher, dans la même position où je l'avais laissé le soir. Il avait les yeux fixes et la figure horriblement pâle. La cloche de l'atelier sonna. C'était l'heure où tous les ouvriers descendent et vont travailler. Il se leva machinalement, prit sa hache et parut prêt à descendre. Puis, tout à coup, il fit un geste comme une personne accablée, jeta sa hache dans le jardin, sortit et s'en alla dans la campagne. Le soir, il ne reparut pas, ni le lendemain, ni le troisième jour. Je me sentais tourmenté de remords horribles. Je commençais à craindre qu'il ne se fût tué et j'allais prier la mère Bernard de le faire chercher partout. Quand j'entrais chez elle, je n'y trouvais que le vieux Bernard. « Ma femme m'a tout raconté, » dit-il. « Viens ici, Rose. » Je m'approchai en tremblant. « Écoute, ce n'est pas à moi de te faire un crime si tu me donnes des petits-enfants avant le temps. » C'est bien la faute de Bernard autant que la tienne. Je ne te gronderai donc pas pour cela. Mais tu vas me faire un serment.
Lequel?
Tu vas me jurer que jamais tu n'as donné le petit bout du doigt à personne.
Ô père Bernard,
eh mon enfant, tu ne seras pas la première. Pourrais-je, je ne veux pas te faire de peine. « Oui, Rose, je te crois, et je suis prêt à recevoir mon petit-fils quand son temps sera venu. Mais tu sens qu'il faut que tu te tiennes comme une sage personne et que tu ne fasses plus parler de toi jusqu'à l'arrivée de Bernard si tu veux qu'il t'épouse. Car sans cela, point de salut. On m'a parlé de Mathieu, le contremaître.
Oh, père, pouvez-vous croire ?
Oh, je ne crois rien, tu le vois bien, puisque je veux que tu sois ma fille comme auparavant. Mais enfin... Il faut prendre ses précautions en ce monde. Je suis vieux, Rose, et j'ai vu bien des filles qui auraient juré de... Oh, alors, mais ne pleure pas, mon enfant. Je te dis pas cela pour t'affliger, mais parce que je veux pas qu'on se moque de moi. Pendant qu'il parlait, je pleurais comme une madeleine. Hélas, madame, je commençais à voir toutes les suites de ma faute et tous les malheurs que je m'étais attirés. Mon père en fuite, moi déshonoré, mon enfant sans père et toute ma vie perdue pour un moment d'oubli.
Et vous irez chercher mon père? Dis-je au vieux Bernard.
J'irai le chercher, Rose, mais je ne te réponds pas qu'il revienne. Sans souci à de l'honneur, et l'on n'aime pas voir sa fille montrer au doigt dans le quartier.
Chacune de ces paroles me perçait le cœur, et le pauvre homme n'y faisait pas attention, ne s'apercevait pas de l'effet de ses consolations. Enfin, il fut résolu qu'il irait chercher mon père le lendemain. Il partit, en effet, et 2 jours après, ramena mon père. Il ne se borna pas là et chercha à nous réconcilier. Au premier mot, le vieux sans souci l'interrompit. « Laisse-nous, Bernard, je veux lui parler seul. » Quand la porte fut refermée, mon père me dit, sans me regarder, « Assieds-toi, Rose. Bon, je ne te reproche rien. J'aurais dû te garder mieux. J'ai oublié mon devoir de père, Dieu m'en punit. J'ai eu confiance en toi. Tu m'as trompé, oh, tu ne me tromperas plus. Aujourd'hui, tu es femme et maîtresse de toi. Je n'ai plus aucun droit sur toi. Si tu veux courir les champs et prendre un autre amant en attendant le retour de Bernard, tu es libre. Je te dirai pas un mot, je ne ferai plus un pas pour t'en empêcher. Mais si je n'ai plus de droit, j'ai encore des devoirs envers toi. Je dois te protéger jusqu'à ton mariage, si tu dois te marier jamais, contre la faim, la misère et les mauvais sujets. Quoique tu aies mérité d'être insulté, je ne veux pas qu'on t'insulte. Et le premier qui te parlera plus haut, autrement qu'à l'ordinaire, je lui romperai les os. « Oui, je lui romperai les os, » ajouta-t-il, en frappant sur la table un coup si fort qu'elle se fendit en deux. « Je voulais d'abord te quitter et te laisser cette maison que j'avais bâtie pour toi, où ta mère est morte, où tes sœurs sont nées. Je ne voulais plus te voir. Mais si l'on croyait que je t'abandonne, tout le monde te cracherait à la figure, car on serait bien aise d'insulter une femme sans défense. » Cela dispense les autres femmes de faire preuve de vertu. Les paroles sortaient de son gosier avec un effort qui faisait peine à voir. Ces 3 jours passés à courir la campagne l'avaient fatigué plus qu'une longue maladie. Je l'écoutais, abattu, consterné, presque prosterné, sans rien dire. Et il reprit, « Nous vivrons donc ensemble comme par le passé. » Tout ce qui te manquera, je te le donnerai, mais tu ne seras plus pour moi qu'une étrangère. » À ces mots, je fondis en larmes et je me jetai à genoux devant lui. Il m'écarta doucement de la main, se leva, et prenant sa hache, il alla travailler comme à l'ordinaire. Je me couchai sur mon lit, les membres brisés par la fatigue et la douleur. La fièvre me prit et ne me quitta qu'au bout de 8 jours. Cependant, mon histoire commençait à se répandre. Le départ subit de mon père et son retour, qu'on ne s'expliquait pas, avait fait causer les voisins, car dans notre pays tout est événement. On interrogea mon père, qui ne répondit rien, suivant sa coutume. Alors la mère de Bernard fit entendre qu'elle en savait sur ce mystère plus long qu'elle n'en voulait dire. On la pressa de parler. C'est bon, dit-elle, c'est pas pour rien qu'on m'a surnommé Bouche Close. Ah, vous voudriez bien savoir ce qu'il y a, mes petits amis. Mais vous ne saurez rien, c'est moi qui vous le dis. Ben, on ne saura rien parce qu'il n'y a rien, dit une voisine. « Ah, vous croyez qu'il n'y a rien, vous autres? Et pourquoi donc le vieux sans souci aurait-il... »« Ben, je veux rien dire pour vous faire enrager. »« Bon, mais s'il avait quelque chose, » reprit une autre, « est-ce que vous ne l'auriez pas tambouriné depuis longtemps aux quatre coins de la ville ?»« Tambouriné, vieille folle? Mais c'est vous qu'on tambourine tous les jours depuis 60 ans. »« Ah, je tambourine les secrets. » « Eh bien, vous ne serez pas celui-là, vous ne le serez jamais, c'est-à-dire, vous ne le serez pas avant le temps. »« N'empêche que Bernard est un fameux gaillard et un joli garçon. »« Tiens, voilà du nouveau, cria la vieille qui avait parlé de tambouriner. Elle va nous faire l'éloge de son Bernard. Un joli garçon, n'est-ce pas? Mais un vin du pied qui n'a jamais su gagner 10 sous. Mon Bernard, un vin du pied, eh bien, quand je lâcherai mon coq, gardez vos poules, mes amis, je vous dis que ça. Un fameux coq, ce Bernard, ne dirait-on pas que les filles vont courir après lui? Eh bien, et quand on le dirait, sais-tu qu'il y en a plus d'une qui... Ben, je veux rien dire, j'en dirai trop. Et après tout, c'est pas sa faute à cette pauvre fille. Quelle pauvre fille, dit l'une des curieuses. Quelle est l'abandonnée du ciel qui voudrait d'un vilain singe comme ton Bernard? L'abandonnée du ciel, apprends tes vergondés, que tu seras encore bien heureuse d'être cette abandonnée du ciel. Et si Bernard avait voulu, ben demande plutôt à qui, mère Bernard? À mon bonnet, bavarde. Ben, tu voudrais bien savoir ce que je veux pas te dire. Mais ce n'est ni moi, ni Bernard, ni le vieux sans souci qui... Le vieux sans souci, cria l'autre. C'est donc Rose d'amour, Rose la vertueuse, Rose la rusée, Rose la renchérie, Rose qui fait la fière en public avec les garçons. Mais qu'est-ce qui te parle de Rose d'amour, langue du diable, langue pestiférée? Bon, la vieille se fâche, mais c'est toi qui nous as parlé du vieux sans souci. Le fait est, dit une autre, que Rose pâlit tous les jours. Rose maigrit, Rose se dessèche, Rose dépérit. Ah, c'est faux, dit la première qui avait parlé. Rose d'amour ne maigrit pas, au contraire, elle engraisse. Rose d'amour était en fleurs ce printemps. Elle donnera des fruits cet hiver. Est-ce que vous allez devenir grand-mère, mère Bernard? La pauvre femme vit bien alors qu'elle avait trop parlé. Le plaisir de vanter son fils lui avait fait dire ce malheureux secret. Dès le lendemain, ce fut l'histoire de tout le quartier. Quand j'entrais dans l'atelier, le contremaître va me prendre le menton en riant. Mes camarades se moquèrent de moi. Ce fut une risée générale. Le soir, on se mit en haie pour me voir passer. Ah, madame, les femmes sont si dures, les unes pour les autres. Cependant, je n'osais rien dire, de peur que mon père ne se fît quelque querelle avec les voisins. Heureusement, le pauvre homme, tout occupé de son propre chagrin, ne s'aperçut pas des affronts qu'on me faisait. Il allait de bonne heure à son travail, il revenait à la nuit close. Pour éviter tous les regards, il se coulait le long des murs, il faisait des détours et rentrait à la maison en suivant des sentiers de chèvres. Nous ne nous parlions plus. Je préparais la soupe comme à l'ordinaire. Il prenait son écuelle, s'enfonçait dans le coin de la cheminée et mangeait sans lever les yeux. Quand il avait fini, il allait s'asseoir sur le rocher, mais seul, car je n'osais plus lui tenir compagnie. Il demeurait là 1 heure ou 2 à réfléchir, rentrait et se couchait. À peine si je lui disais d'une voix tremblante « Bonsoir, père ». Il me répondait « Bonsoir » et se retournait du côté de la muraille. J'allais alors dans ma chambre et je passais la moitié de la nuit à pleurer. Voilà, madame, comment je passais la moitié de l'année. Enfin, j'accouchais d'une fille avec des douleurs terribles. Mon père avait fait venir la sage-femme et attendait dans la chambre à côté de la mienne que je fusse délivré. Comme ma petite fille fut née, il la prit dans ses bras, l'enveloppa lui-même dans les langes et la mit dans le berceau. Puis il entra pour me voir et me demanda si j'avais besoin de quelque chose. « Oh, je n'ai besoin de rien, lui dis-je. Que de ton pardon ? » Il se détourna sans répondre et sortit en s'essuyant les yeux. Oh, le pauvre homme était, je crois, 1000 fois plus malheureux que moi. Il m'aimait tant, et il me voyait si malheureuse. Mais il craignait de me donner la moindre marque d'amitié. Quand je pus me lever, je lui demandai bien humblement la permission de nourrir moi-même mon enfant. Je craignais qu'il ne voulût pas l'avoir. « Il est bien tard, dit-il, pour me demander cette permission-là. Mais le pauvre enfant est innocent à l'égard de là. » Ce fut sa seule parole. Je le voyais me regarder souvent quand il pensait n'être pas vu et s'attendrir sur mon sort. Il allait chercher lui-même ou acheter tout ce dont j'avais besoin, et quand je voulais le remercier, il répondait brusquement « C'est pour l'enfant !» Quand il fut question du baptême, je voulus encore lui demander conseil. Bon, « Appelle-la comme tu voudras, » dit-il. Je l'appelai Bernardine en souvenir de son père, mais comme ce nom faisait mal au vieux sans souci, je changeai, quand il était là, ce nom pour celui de ma mère, qui s'appelait Jeanne. Petit à petit, nous reprîmes notre vie ordinaire. Je nourrissais mon enfant, et comme je savais coudre, je gagnais encore quelque argent à demeurer dans la maison. Le père et la mère de Bernard venaient nous voir souvent, et nous parlions ensemble de Bernard, du moins quand mon père n'y était pas, car la première fois qu'on en parla devant lui, il se leva, sortit, et ne voulut pas rentrer de toute la soirée. Il faut vous dire, madame, que ma pauvre Bernardine était jolie comme un ange, avec de beaux cheveux blonds frisés, de petites dents blanches comme du lait, et des lèvres comme on n'en fait plus. Dès l'âge de 8 mois, elle commença à marcher, et à 9 mois, elle disait « papa et maman » comme une personne naturelle. Le vieux, sans souci, malgré tout son chagrin, ne tarda pas à l'aimer plus que moi-même. Il la prenait dans ses bras, il lui riait, il lui chantait les chansons comme on fait aux petits-enfants, « Do, do, l'enfant do ». Il la berçait dans ses bras, il la portait dans le jardin, il la mettait à cheval sur son cou, la promenait, la faisait sauter, danser. Et quand elle eut 1 an, il finit par ne plus pouvoir s'en séparer. Vous jugez si j'étais contente et si j'espérais de me réconcilier avec lui. Il m'arriva bientôt un autre bonheur. Depuis que j'avais sevré mon enfant, j'étais retourné à l'atelier où l'on finissait par s'accoutumer à moi. Le contremaître seul essayait encore de prendre avec moi un air familier, mais je me tenais toujours aussi loin que je pouvais, et même un jour, comme il voulut m'embrasser de force, pendant que mes camarades riaient, je le menaçai de tout dire à mon père. « Est-ce que tu crois que je le crains, ton père ?» dit-il en grognant et grondant comme un dogue. Mais il n'osa plus y revenir, et je vécus tranquille pendant quelque temps. Un soir, la mère de Bernard entra chez nous avec son mari. Elle tenait à la main une grande lettre ouverte qui me fit battre le cœur dès que je l'aperçus. « Eh bien, Rose d'amour, dit-elle en m'embrassant, voici des nouvelles de Bernard. Il n'est pas mort, il n'est pas estropié. Il est vainqueur du sultan de Maroc. Il a les galons de caporal. » Il a pris la tente du sultan. Ah, pour ça, j'y comprends rien. Que veut-il faire de la tente du sultan? Il valait mieux bien prendre son neveu, mais il paraît qu'il courait à bride abattue et que Bernard, qui était à pied et qui portait son sac et son fusil, n'a pas pu le rattraper. C'est égal, c'est bien drôle de laisser là sa tente. Pourquoi l'avait-il menée à la bataille? Voyons, dit le vieux Bernard. « Donne-moi la lettre pour que je la relise, car tu nous la racontes si bien que j'y comprends plus rien. »« Mais qu'est-ce que tu comprends, vieux fou? Tu sais même pas seulement faire cuire ta soupe, et si tu fermais les yeux, tu ne saurais pas la manger. Écoute-moi cette lettre, Rose, et tu verras les belles choses qu'il dit pour toi et pour moi. » En même temps, elle commença sa lecture. « Tenez, madame, voici la lettre.
Isly, 1845. Ma chère mère, la présente est pour vous dire que je me porte bien et que je souhaite que la présente vous trouve dans le même état qu'elle me quitte, c'est-à-dire joyeuse et bien portante, ainsi que mon père, le vieux sans souci, et ma petite Rose d'amour, et mes parents, et mes amis, et toutes mes connaissances. Subséquemment, je viens d'être fait caporal, avec des galons auxquels je me suis fait sensiblement hommage, pour la circonstance de ce que les Marocains sont venus nous attaquer pendant que nous mangeions la soupe, ce qui m'a dérangé notoirement, vu qu'il est sensible qu'on ne peut manger la soupe et faire le coup de feu avec commodité, et qu'il faut choisir substantiellement entre la soupe et l'étrillement du moricaud, dont j'ai choisi l'étrillement dans l'espérance de manger plutôt ma soupe et plus tranquillement, ce qui n'a pas manqué. Insensiblement, le sultan de Maroc, qu'on appelle Rahman, Karaman ou quelque chose de pareil, vu que dans son pays on est, comme qui dirait, aux galères et qu'on y rame à perpétuité, à cause du soleil qui est chaud comme braise et qui rend noir comme charbon ceux qui ont la négligence de le regarder en face, ce pauvre sultan que je dis a eu l'imprudence de venir se frotter contre ma baïonnette, dont je lui ai montré la pointe avec l'intention de la lui mettre dans la poitrine comme dans un fourreau. Mais que le moricaud, pénétrant mon dessein, m'a grossièrement montré et le dos comme s'il avait eu besoin d'un lavement. Mais que je n'ai pas eu le temps d'obtempérer à son désir, vu qu'il était déjà loin et que ma baïonnette, conséquemment, n'a pas des ailes, comme les oiseaux, et que, comme dit l'autre, c'est pas la peine de courir après la mauvaise compagnie, et que s'il m'a fait une impolitesse en me tournant le dos, je puis bien lui pardonner diamétralement en long et en large, vu qu'il a fait le même affront au maréchal Bugeaud et à tous les officiers et sous-officiers du régiment, et que le sergent-major m'a dit qu'il aurait fait la même chose au grand Napoléon lui-même. Itérativement et sans tarder, j'ai couru droit vers sa tente, qui était étendue sur 6 bâtons dorés et qui prenait l'air au soleil, et que moi et Dumanet, nous l'avons emporté à nous deux sur nos épaules, et qu'on a dit que nous aurions la croix, ou du moins que mon capitaine l'aurait, ce qui honore toute la compagnie, et subséquemment le simple soldat, dont auquel du reste mon capitaine a bien voulu me dire que je serais mis à l'ordre du jour et que j'aurais les galons de caporal, ce qui m'a fait plaisir, vu que je sais que tu es glorieuse de ton fils, et que tu seras bien aise d'apprendre qu'il est le brave des braves, ou qu'il ne s'en fout de guerre, mais qu'il t'aime toujours par-dessus toute chose, mère Bernard, excepté toutefois ma chère Rose d'amour, que j'espère qu'il m'attendra toujours et qui sera éternellement ma chérie. Je compte que tu m'écriras bientôt pour me donner de tes nouvelles, et subséquemment de celles de mon père, de Rose d'amour et de toute la famille, et que tu me diras qu'est-ce qui vit et qu'est-ce qui meurt et qu'est-ce qui se marie, et je t'embrasse sur les deux yeux, ton fils honoré, Bernard. Dis à Rose d'amour que je voulais lui envoyer la tente du sultan, mais qu'on va l'embarquer pour la France et la donner au roi Louis-Philippe, qui pourra la montrer, s'il veut, à tous ces badauds de Parisiens. Dis-lui aussi que voici bientôt 2 ans que je suis loin d'elle, et que nous n'avons plus que 5 ans à attendre. Bien, je ne sais pas, madame, ce que vous pensez de cette lettre, mais pour moi, elle me fit un effet dont vous ne pouvez pas avoir une idée. Tout ce que j'avais souffert, je l'oubliais en un instant. Je ne pensais plus qu'au bonheur de revoir Bernard, et s'il faut le dire, ces galons de caporal me rendaient toute fière. Je pensais tout de suite qu'il avait gagné la bataille à lui tout seul, et que c'était là une grande injustice de ne pas lui donner la croix et de ne pas mettre son nom dans tous les journaux. Et j'enviais la mère de Bernard, qui pouvait s'en aller et montrer sa lettre dans tout le quartier et se faire honorer de son fils, comme j'aurais voulu me faire honneur de mon mari et du père de ma petite Bernardine. Mon père, qui avait tout entendu et qui n'en faisait pas semblant, parut plus content qu'à l'ordinaire, et pendant quelques jours je fus presque heureuse. Mais hélas, madame,
Ce n'était qu'un moment de repos dans ma douleur, et ce que j'avais souffert n'était rien auprès de ce que j'avais à souffrir encore. Un soir, c'était pendant l'été, après souper, mon père tenait ma petite Bernardine dans ses bras et était assis sur un banc devant la porte. Il s'amusait à la faire sauter sur ses genoux et la faisait rire aux éclats lorsqu'un homme qu'il connaissait vint à passer. C'était un mauvais ouvrier, méchant, querelleur, ivrogne, et qui avait eu quelques disputes avec mon père 2 mois auparavant, je ne sais plus à quel sujet. Quand cet homme vit mon père ainsi occupé, comme il avait bu ce jour-là, il voulut l'insulter et lui dit « Bonsoir, sans souci, comment va ta petite bâtarde ?» À ces mots, mon père, qui était l'homme le plus doux du monde et le plus ennemi des batailles, devint pâle comme un mort. Il déposa Bernardine à terre, et saisissant l'homme aux cheveux, il le roula dans la poussière et la clava de coups de pied et de coups de poing. Les voisins voulurent l'arracher de ses mains, mais mon père y allait avec tant de rage qu'on ne put jamais délivrer l'autre. À peine si l'on parvint à le relever à demi, tout sanglant et la bouche écumante. Cependant, à force de frapper, mon père, fatigué, finit par lâcher prise. À ce moment, l'autre, ayant ses 2 mains libres, tira de sa poche un compas. Oh, c'était un charpentier comme mon père, et l'en frappa 2 fois dans la poitrine. Mon père tomba aussitôt, et l'autre se sauva sans qu'on pût l'arrêter. Jugez, madame, quel spectacle pour moi, qui voyais toute cette bataille commencer à cause de moi, et qui ne pouvait pas l'empêcher. Je me jetai sur mon père pour le relever, mais il était en tel état qu'il fallut le porter sur son lit. On appela le médecin, qui secoua la tête et dit qu'il n'avait pas 2 heures à vivre. « Puisqu'il en est ainsi, dit mon père, sortez tous, je veux parler à ma fille. » Mes yeux se fondaient en eau, je ne pouvais plus parler. Je m'avançai vers son lit. « Embrasse-moi, dit-il, ma chère enfant, et réconcilions-nous, puisque je vais mourir. Dieu me punit d'avoir été peut-être trop sévère avec toi, après avoir été trop négligent. Oh, père, tu me pardonnes ? » Et je l'embrassai de toutes mes forces. Ne te pardonne pas, ma pauvre Rose, dit-il, c'est Dieu seul qui pardonne. Moi, je t'aime. Qu'est-ce que je pourrais te reprocher ? Ne m'as-tu pas aimé, soigné, caressé ? As-tu été ingrate ou méchante avec moi ? Jamais. Et si tu as manqué à tes devoirs de femme, n'est-ce pas toi qui en as porté la peine ? Je t'aime. Et si je te regrette quelque chose, c'est de te laisser seule et sans protection sur la terre, car tes sœurs, je le sais, sont toutes occupées de leurs maris, de leurs enfants, comme il est naturel, et ne pourront jamais t'aider. Je ne puis plus rien pour toi que te donner cette maison. Je te la donne. Tes sœurs ont reçu leur dot. Toi, attends Bernard, puisqu'il le faut, et élève Bernardine mieux que je te l'ai élevée. Je ne te demande pas de la rendre meilleure et plus douce que toi, car tu as toujours été bonne et soumise envers moi, ni plus laborieuse, car je ne t'ai jamais vue perdre 1 minute, mais de la surveiller mieux. Hélas, tu vois tous les malheurs qui naissent d'un moment d'oubli. Apporte-moi Bernardine. Il la prit dans ses bras, la regarda un moment, l'embrassa et me la rendit en disant « Ben, c'est tout ton portrait. Elle sera aussi jolie que toi. » Quelques secondes après, le prêtre entra et resta seul pendant 1/2 heure avec lui. Quand il fut sorti, je revins à mon tour. Je pris la main de mon père. Il fit un effort pour me sourire encore
et mourut. Je me trouvais seul sur la terre, avec Bernardine qu'il fallait protéger, quand j'avais moi-même si grand besoin de protection. Ce nouveau et terrible malheur, le plus grand de tous peut-être, qui venait de me frapper, aurait dû exciter la pitié de nos voisins. Ce fut tout le contraire. Quand j'allais en pleurant et la tête cachée dans le capuchon de ma mante, mener au cimetière le corps de mon pauvre père, j'entendis de tous côtés des cris contre moi. « La voilà, cette coquine qui a fait assassiner son père !» La voilà cette dévergondée. S'il n'avait pas eu une si mauvaise conduite, le pauvre homme vivrait encore. Ah, c'était un digne homme, celui-là, et qui méritait bien de n'être pas le père d'une pareille effrontée. Pauvre vieux sans souci. Il n'aurait pas donné une chiquenaude à un enfant, ni fait de mal à une mouche. Mais elle l'a tourmenté toute sa vie, et n'a pas eu de repos qu'il ne fût tué. La misérable. Mais comment ose-t-elle se montrer dans les rues? On devrait la poursuivre à coups de pierre. » Voilà, madame, les choses les plus douces qu'on disait de moi et que j'eus tout le temps d'entendre de notre maison à l'église et de l'église au cimetière. Quand le cercueil fut descendu dans la fosse et quand les premières pelletées de terre eurent été jetées sur le corps, les cris redoublèrent et quelques-uns parlaient de me jeter dans la rivière. À ce moment-là, brisé par la fatigue, par la honte, par le désespoir, je me trouvais mal et je tombais sans connaissance dans le cimetière même. Personne, excepté le vieux Bernard, ne s'occupa de me relever. On cria même que c'était une comédie, que je cherchais à inspirer de la pitié aux assistants. Et quand, ranimé par les soins du père Bernard, je pus sortir du cimetière et revenir à la maison. On me suivit dans la rue avec des huées. Enfin, madame, j'avais bu le calice jusqu'à la lie et j'étais devenu comme insensible à tout. Au point où j'étais arrivé, je ne craignais ni n'espérais plus rien et la mort même aurait été pour moi un bienfait. Quand je rentrai chez moi, le vieux Bernard me quitta. C'était un honnête homme, mais il craignait qu'on lui fît un mauvais parti, et il n'est pas de force ni d'humeur à me défendre seul contre tous. La mère Bernard, oh, quoiqu'elle m'aima beaucoup, Bernardine, ne voulait pas non plus se compromettre pour moi, car on quitte volontiers ceux contre qui le monde aboie, et ce sont de solides amis ceux qui vous défendent quand vous êtes seul contre tous. Ce soir-là, quand je me vis seul au coin de mon feu, à cette place où mon père était encore assis la veille, je fus prise d'une telle envie de pleurer et d'un tel désespoir que j'eus un instant l'idée de me briser la tête contre les murs. Je pensais que j'étais seul au monde, que Bernard m'avait oublié ou m'oublierait à coup sûr. Que s'il ne m'oubliait pas, ses parents l'empêcheraient d'épouser une fille sans dot et déshonorée, qu'il me trouverait vieille et laide à son tour, qu'on lui ferait cent histoires de moi où je serais peinte comme une mauvaise fille, et qu'il faudrait qu'il m'aimât d'un amour sans pareil s'il pouvait résister à tous ses dégoûts. Enfin, mon cœur ne me fournissait que des sujets de chagrin, et si ce désespoir avait duré quelque temps, je crois que j'en serais devenue folle. Pendant que je réfléchissais ainsi, ma petite Bernardine, que j'avais mise dans son berceau et oubliée, s'écria « Papa, papa !» À ce cri, qui me rappelait si cruellement ma perte, je me remis à pleurer et j'allais la prendre dans son berceau. Mais l'enfant, effrayé sans doute de voir ma figure pâle et décomposée, détourna la tête et se mit à crier plus fort « Papa, papa !» Je sentis alors que j'étais mère et qu'il était plus temps de se désespérer. « Papa est sorti, lui dis-je. Ah, il est sorti. Va-t-il revenir bientôt ? Oh, je ne sais pas.
Il reviendra en été ? Dit l'enfant. Oui, mon enfant, en été.
Ces deux mots la calmèrent. Il faut savoir que lorsqu'elle demandait quelque chose qui m'était impossible de lui donner, j'avais l'habitude de lui promettre de le donner en été, et ce mot, dont elle ne connaissait pas le sens, lui faisait autant de plaisir que si j'avais fait sa volonté. Au bout d'un instant, Bernardine s'endormit dans mes bras et je la plaçai sur son lit. Je demeurai enfermé chez moi pendant plusieurs jours, sans voir personne, car les parents même de Bernard m'avaient abandonné, et mes sœurs et mes beaux-frères ne voulaient plus me voir. Enfin, il fallut sortir et aller chercher de l'ouvrage à l'atelier. Aussitôt qu'on me vit paraître, ce ne fut qu'un cri contre moi. Toutes mes camarades se levèrent pour me chasser et déclarèrent qu'elles partiraient si je rentrais au milieu d'elles. Oh, madame, j'étais si désespéré que je ne ressentis pas ce terrible affront comme j'aurais fait en toute autre circonstance. Je m'assis sur une chaise en faisant signe que je ne pouvais plus me soutenir ni parler et que je priais qu'on eût pitié de moi. Mais le triste état où j'étais ne m'aurait pas sauvé de cette avanie si Mathieu, le contremaître, n'avait pas pris mon parti. « Que lui voulez-vous, dit-il, à cette pauvre rose d'amour ? Elle a un enfant, eh bien. Et vous, n'avez-vous pas fait tout ce qu'il faut faire pour en avoir un aussi ? Allez, asseyez-vous et tenez-vous tranquille. Ou si quelqu'une de vous remue, je la mets à la porte de l'atelier. » Et vous, Rose, allez à votre métier. C'est moi qui aurai soin de vous.
Il aura soin, dit tout bas en grondant l'une des plus furieuses. Est-ce qu'il va prendre la succession de Bernard ?
Mathieu l'entendit et lui donna un grand coup de poing sur l'épaule. Tais-toi, dit-il, ou je vais raconter des histoires. Cette menace fit taire tout le monde, mais on ne cessa pas pour cela de me haïr, de me persécuter secrètement. Cependant, c'était déjà beaucoup de pouvoir travailler et vivre. Vous êtes étonnée, madame, et vous croyez peut-être que j'avais affaire à de très méchantes femmes, mais pas du tout. Elles n'étaient ni meilleures ni plus mauvaises que celles qu'on voit tous les jours dans la rue. Mais elles me voyaient à terre et me frappaient sans réflexion, comme on fait toujours pour le plus faible, dans le grand monde aussi bien que dans le petit. Quand je revins chez moi, j'y trouvai la mère de Bernard, qui gardait ma petite fille pendant que j'étais à l'atelier. Elle fut bien contente d'apprendre que j'avais enfin trouvé de l'ouvrage. « Est-ce que tu vas vivre seule ?» me dit-elle. « Mais comment voulez-vous que je vive ? Mes sœurs ne veulent pas de moi. » Je vis qu'elle était tentée de m'offrir un logement dans sa maison, mais qu'elle n'osait me le proposer de peur de s'engager et d'engager Bernard. D'ailleurs, son mari pouvait le trouver mauvais. Il avait été très fâché du bruit qui s'était fait et des paroles qu'il avait entendues le jour de l'enterrement de mon père. Il ne voulait pas s'exposer à une seconde algarade. C'était un homme sage, et voyez-vous, madame, les hommes de ce caractère n'aiment pas à s'exposer sans nécessité. Je vécus donc seul, ne sortant que pour aller le dimanche à la messe et tous les autres jours à l'atelier. Je commençais aussi à réfléchir et à écouter avec plus de soin les exhortations qu'on faisait en chaire tous les dimanches. Jusque-là, j'avais entendu, sans les comprendre, les paroles de l'évangile que lisait le curé dans sa chaire, ou plutôt, comme font les enfants, je marmottais des prières dont je n'avais jamais cherché le sens. Mais quand je sentis que j'étais seul sur la terre et que je ne pouvais attendre de consolation de personne, je commençais à réfléchir et à vouloir causer avec Dieu même, puisqu'on dit qu'il écoute également tout le monde, et qu'il n'ait pas besoin d'être savant pour l'entretenir face à face.
En récitant les premiers mots de la prière que je faisais soir et matin, « Notre Père qui êtes aux cieux », je fus étonné de n'avoir jamais pensé à ce que je commençais à me faire du ciel une idée que je n'avais jamais eue auparavant. Je me souvins que mon père, oh, qui n'était pourtant pas un savant, m'avait souvent dit que le ciel était tout autre chose qu'on se figure, que c'était un espace immense où roulaient des milliards d'étoiles, et que ces étoiles étaient 1 million de fois plus éloignées de nous que le soleil, et que c'était elles-mêmes des soleils, et qu'autour de chacun de ces soleils tournaient des quantités innombrables de mondes plus grands que la terre entière et la mer. Et je fis réflexion que si notre soleil était si petit en comparaison de cet espace immense, et si petite notre terre en présence du soleil, et si petite ma ville en présence de la terre entière, et moi si petite dans cette ville même, ce n'était pas la peine de s'occuper de mes voisins, ni de leur haine, ni de leur mépris, que la vie ici-bas était assez courte pour qu'on puisse en oublier facilement et promptement toutes les douleurs, que si ce voisinage m'était insupportable, je pouvais me réfugier dans ma chambre, et que mon âme trouverait aisément un abri dans ses pensées et dans ses espérances, qu'il était au pouvoir de personne de m'enlever. Je pensais aussi que cette vie éternelle dont nous parlait le curé n'était peut-être pas autre chose qu'une vie nouvelle dans un monde meilleur où je pourrais aisément trouver une place si je remplissais tous mes devoirs sur la terre. Je pensais aussi avec joie que si j'avais commis une grande et inexcusable faute, je l'avais très cruellement expié, que le départ de Bernard, la mort de mon père, la haine et le mépris de mes voisins étaient des châtiments dont la justice divine pouvait se contenter, et que s'il m'arrivait de quitter cette vie avant le retour de Bernard, je pouvais espérer, ne m'étant pas révolté contre ma destinée, qu'elle cesserait de me poursuivre dans un autre monde, et que je pourrais rejoindre mon père et vivre heureuse à mon tour. Ces réflexions, que je vous dis bien mal et que je ne fis pas en un jour, commencèrent à rendre mon esprit plus tranquille. Je ne craignais plus, comme auparavant, de tomber dans un affreux désespoir, ou plutôt, comme j'étais étendu toute meurtrie au fond du précipice, je ne craignais plus aucune chute ni aucune meurtrissure. Mais cependant, mes épreuves n'étaient pas terminées.